Vous avez sans doute entendu ce son, même si vous ne le reconnaissez pas d'emblée, ou plutôt, je suis sûr que vous avez vu passer cette vidéo, comme nous tous, à un moment donné sur Facebook. Où se trouve-t-on exactement ? À quelques kilomètres de Mossoul, en Irak, ville stratégique encore aux mains de l'organisation État islamique. Nous sommes le 17 octobre, l'armée irakienne est en première ligne. Elle a reçu le soutien de la coalition internationale, mais aussi des combattants kurdes. Et on entend les blindés qui circulent en colonne, les tractopelles qui s'animent le long des remblais de terre. Et on est en direct, en live. Mais pas n'importe quel live. Là, c'est un direct sans intermédiaire qui tourne sans fin. C'est le spectacle qui a définitivement rattrapé le réel et c'est la banalité du mal quotidien à quelques encablures d'une ligne de front. Sauf que, à l'écran, en surimpression des flux vidéo livrés par des agences de presse, on like, on commente et c'est la fête des emojis. Des cœurs, des larmes, des smileys, c'est insensé, mais c'est bien ce qu'on voit passer sur l'écran. Et ce spectacle étrangement ordinaire, ce live permanent, c'est sans doute ce qui devait finir par arriver. On peut donc liker la guerre en direct, comme on peut se mobiliser rapidement, collectivement, pour dénoncer des exactions ou exiger de nos représentants qu'ils nous rendent des comptes. Oui, parce que nous sommes tous, tout le temps, connectés, et l'on filme comme on respire, et l'on shoot comme on snap, pour le meilleur comme pour le pire. Et c'est là, précisément là, qu'il importe de réfléchir et de construire un journalisme et des formats qui permettent de se réapproprier le sens de l'information contre la tyrannie du live.
L'atelier des médias. Julien Lebotte.
Je vous propose donc aujourd'hui de prendre un peu de recul et d'aller voir d'un peu plus près la figure du mojo. Alors le mojo, qu'est-ce que c'est ? C'est le journaliste mobile. Et contrairement à une idée reçue, ce n'est pas seulement celui qui sait manier son smartphone comme un as des applications, c'est bien plutôt celui qui sait se jouer des formats pour proposer un autre journalisme. Pour en savoir plus, nous recevrons donc en seconde partie d'émission l'indispensable Nicolas Becquet, journaliste explorant sans relâche depuis des années la boîte à outils du journaliste numérique. Nous parlerons de Facebook Live, de l'instant détox de France Info ou encore d'un podcast francophone sur le mojo. Dans quelques instants, loin du live et des tweets, on retrouvera le grain de l'histoire. Et l'on parlera de Aïssam, une jeunesse syrienne, une bande dessinée retraçant le parcours du jeune Aïssam et de sa famille, parti de Dera en Syrie, contraint de fuir la répression orchestrée par le régime pour atterrir en France. Son père, opposant de longue date à Bachar al-Assad, a été l'un des premiers citoyens reporters du printemps arabe. Je ne vous en dis pas plus. Et tout de suite, je vous propose de partir à la rencontre de Fodé Kouyaté, un blogueur guinéen président d'Ablogi qui va nous parler du contrôle citoyen de l'action publique. Il est au micro de Mathias Virilli et on commence avec la question que l'on se pose tous. Ablogi, qu'est-ce que c'est ?
Ablogi, c'est l'association des blogueurs de Guinée qui regroupe actuellement une soixantaine de blogueurs et de web activistes qui sont réunis autour des activités citoyennes et présentement notamment des projets de mobilisation autour des actions de contrôle de citoyens de l'action publique, mais aussi d'autres activités de mobilisation, d'interpellation autour des problématiques d'ordre social ou politique.
Vous avez lancé récemment un nouveau projet qui s'appelle l'AIDI. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce projet-là ?
Oui, l'AIDI, c'est une plateforme de suivi et d'évaluation des promesses du président de la République et de son gouvernement.
Alpha Condé, donc.
L'AIDI, ça signifie promesse en langue locale. Ça fait suite à un projet similaire que nous avons mis en place lors de l'élection présidentielle de 2015, le deuxième mandat au fait du président Alpha Condé. Nous-mêmes, nous étions très impliqués dans le processus électoral, dans la sensibilisation et aussi dans l'observation électorale. Donc, nous avons suivi ce qui s'est passé et le constat était que les acteurs politiques mettaient très peu d'accent sur le programme de société. Donc, ils trouvaient d'autres moyens de mobiliser les militants et tout ça. Donc, nous avons estimé que ce n'était pas objectif. Il fallait plutôt mettre en avant les programmes de société. Donc, il faut alors donner l'exemple. Il faut que nous aussi, Étant donné que nous avons suivi le processus électoral, nous sommes impliqués, il faut donner suite à cela.
Alors aujourd'hui, la plateforme est en place. Vous avez listé les promesses d'Alpha Condé. Où est-ce que ça en est au niveau de l'évaluation de ces promesses-là? Et comment est-ce que vous procédez? Est-ce que vous êtes en contact avec les autorités? Est-ce que vous allez chercher les informations auprès des médias? Comment est-ce que ça fonctionne, en fait, cette plateforme de suivi?
Il faut forcément la collaboration des autorités. Parce que c'est avant tout les différents départements ministériels ou des services, d'autres services publics qui mettent en œuvre les actions définies dans les projets de société. Donc, il faut forcément avoir des informations de source officielle que l'on va confronter ici aux informations que nous recueillons sur le terrain. Donc, la collaboration avec les autorités est nécessaire, la collaboration avec d'autres organisations de la société civile est nécessaire. La collaboration avec les médias également est nécessaire parce que les médias aussi constituent pour nous une source d'information par rapport à ce que nous faisons.
Comment est-ce que vous avez été reçu sur cette initiative de la part des autorités d'une part, de la part des médias d'autre part? Est-ce que vous avez eu des retours concernant votre initiative?
Par rapport aux autorités, c'est là, il faut le dire, qu'il y a un véritable problème parce que la culture de partage de l'information reste encore très limité. Alors qu'il y a une loi sur l'accès à l'information, cette loi n'est pas encore vulgarisée. Je pense que c'est une loi essentielle qui promeut d'ailleurs la participation citoyenne au processus de prise de décision. Donc je pense qu'il est important que cette loi soit promulguée et vulgarisée. Ça nous permet d'être tout légitime ou d'être en mesure de pouvoir mettre un certain nombre de pressions de façon légale sur les autorités en ce qui concerne le partage d'informations. L'objectif est de les amener à tenir compte des promesses qu'ils ont faites et ne pas les oublier du tout. Donc voilà, et par rapport à ça, il faut forcément collaborer avec les organisations aussi de la société civile pour pouvoir mettre tout ce mécanisme de plaidoyer en place, mais aussi avec les médias par rapport au partage d'informations. On peut être source d'informations pour les médias, comme eux aussi peuvent être source d'informations pour nous.
Merci beaucoup, Fode Saninkayi Kouyaté.
Merci à la télé des médias. Merci.
Quoi de neuf, quoi de beau cette semaine dans le radar de l'Atelier des médias?
Criminals! You guys are criminals! Go get your money somewhere else! We're standing at the construction.
Celle qu'on entend, c'est Amy Goodman. Amy Goodman, c'est une journaliste américaine hors pair qui s'est fait connaître avec ses nombreuses enquêtes portant le plus souvent sur des violations des droits de l'homme, que ce soit en Indonésie, au Nigeria ou encore aux États-Unis. Et c'est aussi la cofondatrice d'une radio alternative américaine qui s'appelle Democracy Now et qui, pour le dire très vite, ne fait preuve d'aucune complaisance vis-à-vis des institutions. Précisément, Amy Goodman et son équipe sont allés couvrir en septembre dernier des manifestations pacifiques contre la construction d'un oléoduc dans le Dakota du Nord, près de la frontière canadienne. Jusqu'ici, rien de bien extraordinaire. Sauf que sur une de ces vidéos, on voit clairement les chiens des vigiles de la compagnie pétrolière s'attaquer aux Amérindiens venus protester contre ces travaux, détruisant leurs terres et leurs eaux. Cette vidéo, qui rassemble plus de 14 millions de vues à ce jour, a valu bien des ennuis à la journaliste américaine. Oui, figurez-vous que l'un des procureurs de cet État américain a tenté d'attaquer la journaliste en considérant que cette dernière était la complice de ce soulèvement populaire. Autrement dit, pour tenter de la faire taire, les autorités locales ont tenté de la faire passer pour une dangereuse activiste, complice d'un soulèvement et non pour une journaliste venue faire son travail. Fort heureusement, le juge John Greensteiner est passé par là lundi dernier, après des semaines d'agitation autour de cette manœuvre juridique, et ce dernier a rappelé que l'on ne pouvait criminaliser le travail d'une journaliste en vertu du bon vieux droit de la presse, qui manifestement ne sied guère à l'industrie pétrolière.
Encore sur cette connerie de Facebook, c'est pas vrai?
Connerie de Facebook, c'est ça?
Je veux pas collectionner les amis et je veux pas être happé par ce truc!
Et on termine les brèves avec un article du Temps.ch qui justement revient sur celles et ceux qui se sont fait happer par les réseaux sociaux en général et pas seulement par Facebook. la journaliste Julie Rambal dresse un inventaire des pathologies ordinaires de l'individu surconnecté incapable de trouver le bonheur dans la solitude. Ce détour lui permet d'identifier les quatre familles auxquelles nous sommes tous susceptibles d'appartenir dans nos rapports aux réseaux sociaux. Il y a donc d'abord le JOMO pour Joy of Missing Out. Il s'agit de ceux qui s'extraient du monde connecté et savent prendre du plaisir dans cette soudaine disparition. On a ensuite le FOMO pour Fear of Missing Out. Et là, je veux parler de ceux qui ont peur de rater quelque chose d'important dans leur réseau. Ils se déplacent donc toujours en meute, quoi qu'il advienne. On a ensuite les turpitudes du MOMO pour Mystery of Missing Out. Ces derniers sont inquiets quand ils ne reçoivent plus de nouvelles. Les a-t-on seulement oubliés et pour quelle raison? Enfin, il y a l'étrange cohorte des FOJI pour Fear of Joining In. Ce sont celles et ceux qui n'osent pas partager ce qui leur arrive sur les réseaux. Oui, pensez-vous, et si personne ne likait leurs photos? Quelle que soit la famille à laquelle vous appartenez, à l'atelier, on tweet presque tout ce qu'on raconte au micro. Donc, tous les liens, toutes les références de nos brefs sont à retrouver sur le compte Twitter de l'atelier, @atelier_media.
Et le président tunisien Ben Ali aurait même déjà quitté ses fonctions. On attend confirmation, mais a priori, effectivement, le président Ben Ali a quitté la Tunisie. La chaîne Al Jazeera annonce même qu'il est arrivé à Paris. Peut-être que l'intervention à la télévision tunisienne a commencé, c'est ce qu'on est en train de m'indiquer.
Nous sommes le 14 janvier 2011 dans la soirée et France 24, comme toutes les chaînes d'information, commence à annoncer le départ de Ben Ali qui a quitté la Tunisie pour fuir les manifestations. C'est la confusion la plus totale et c'est un événement inédit qui vient juste de se produire. D'ailleurs, dans les jours qui ont suivi, la Syrie n'a pas échappé à cette immense aspiration à la liberté. Aïssam, une jeunesse syrienne, c'est une bande dessinée publiée aux éditions d'Argo, coécrite par un journaliste français Nicolas Hénin et un dessinateur sud-coréen Kyun Jun Park. Mais c'est surtout un témoignage où l'on voit l'histoire s'écrire à hauteur d'homme ou ici à hauteur d'adolescent, puisque Aïssam, c'est Aïssam Al-Aswad et c'est notre invité avec Nicolas Hénin. Aïssam, c'est un adolescent de Dera, une petite ville située dans le sud de la Syrie, habituellement plutôt fidèle au régime de Bachar Al-Assad. Mais son père, Ayman, a été l'un des premiers opposants à la répression dès 2010. Cette bande dessinée retrace donc le parcours de cette famille contrainte de fuir le régime pour rejoindre la France en transitant par la Jordanie.
Liberté, démocratie en Tunisie. Liberté, démocratie en Tunisie.
Nous revoici fin janvier 2011, toute la région s'emballe, les Égyptiens occupent la place Tahrir, la Libye se soulève, les Yéménites se débarrassent de leur dictateur et à Dera, nombreux sont celles et ceux qui viennent se joindre à la famille d'Aïssam au rez-de-chaussée de la maison familiale pour suivre le fil de ces événements. Aïssam, vous vous souvenez de ce moment ?
Je me souviens très très bien de ce moment, c'était une joie inexplicable que je peux pas vraiment décrire, c'était vraiment très touchant et surtout par ma famille qui était déjà opposante au régime syrien et même pas que ma famille, beaucoup d'autres Syriens et beaucoup d'autres gens qui étaient dans mon entourage qu'on espérait beaucoup beaucoup qu'une révolution commence en Syrie. En même temps, à cause de la brutalité de ce régime, beaucoup de gens pensaient que ça ne pourrait jamais arriver en Syrie.
Justement, très vite, le 22 février 2011, on a 15 écoliers de Dera qui sont arrêtés pour avoir tagué des slogans inspirés de Tunis ou du Caire. Et c'est là que tout a basculé pour vous, pour votre père et pour le pays.
Tout à fait. Ce moment-là a changé tout en Syrie. Après que les enfants soient torturés, comme bien décrit dans le livre, et les parents aillent demander la liberté de sortir leurs enfants des prisons, qui soit rejeté de cette façon cruelle, et ben la première manifestation a lieu le 18 mars dans ma ville natale, à Dera. C'était une manifestation pacifique pour demander la liberté de ses enfants, mais aussi la liberté en général, la liberté d'expression, et puis pour les prisonniers politiques qui étaient en Syrie.
Nicolas Hénin, quand vous avez travaillé justement sur la reconstitution de ce moment et de ce basculement, comment vous avez fait pour vous documenter ?
Déjà, j'avais la même mémoire de l'époque, hein, puisque c'est des événements que j'avais couverts. J'avais été très tôt en Syrie pour couvrir cette révolution. Et puis après, ce qu'il a fallu faire, c'est donner beaucoup de documentation graphique à Kyung Young Park, donc l'illustrateur, qui lui ne s'est jamais rendu en Syrie. Donc on a fait un très gros travail de documentation, beaucoup sur Internet. On a retrouvé beaucoup de photos. On a retrouvé aussi beaucoup de vidéos. On a travaillé aussi sur Google Earth pour reconstituer, par exemple, des parcours de manifestation à travers la ville. Et puis, on s'est aussi un petit peu permis de piller le compte Facebook de Hessam et toutes les photos qui étaient dessus, de façon à ce que ce récit soit, y compris graphiquement, aussi réaliste que possible.
D'ailleurs, puisqu'on parle de Facebook et de Twitter, il est intéressant de voir que le récit nous plonge aussi dans la façon dont, à l'époque, l'information circule. On a cette case qui mentionne le fait qu'un cousin de votre père, qui est en exil aux États-Unis, publie sur Twitter le numéro de téléphone de votre père. Et là, c'est aussi le basculement, puisqu'en un certain sens, il devient une sorte de citoyen reporter.
L'un des tout premiers de cette révolution syrienne.
Et c'est le début d'un long combat, en fait, pour sortir des informations de Syrie. Vous vous souvenez aussi de ces appels incessants sur le téléphone de votre père, Hessam ?
Je me rappelle très très bien de ce jour-là, que je n'oublierai jamais. Mon père a reçu un appel le 18 mars, le jour même, la nuit. Et il ne croyait pas que c'était une chaîne internationale, mais pensait que c'était le régime qui voulait l'attraper, etc. Et donc, il a commencé à les insulter, etc. Des gros mots, je vais pas les dire. Et puis, le lendemain, d'autres chaînes ont appelé, il a bien compris ce qui se passe et... Il racontait tout ce qui se passait.
Et justement, le 21 mars 2011, votre père est interviewé. On écoute un petit extrait. Donc, à l'occasion justement des manifestations à Dera, il déclare dans les Observateurs de France 24 « Cela fait maintenant 3 jours que les jeunes manifestent, malgré la loi d'urgence en vigueur depuis 1963. À l'origine, il demandait la libération de 15 élèves, donc les élèves dont on parlait tout à l'heure. Et on le voit qui raconte le fait que le peuple veut la fin du régime. C'est pour ce genre de témoignage précisément que votre père a dû très vite entrer dans la clandestinité à Hessam.
Dès le premier jour qu'il a été suivi par les forces du régime syrien et qu'il a dû s'enfuir et ne plus dormir chez nous à la maison, et à beaucoup de moments, nous-mêmes, on ne savait pas où est-ce qu'il était.
Votre père, qui a de nombreux soutiens, en tout cas, a dû finir par fuir en Jordanie, puis il a demandé l'asile politique en France. À l'époque, comment apprenez-vous le fait que votre père a rejoint la France ?
Déjà, j'avais appris qu'il a rejoint la Jordanie quelques jours après qu'il l'ait fait. Et c'était surprenant, mais j'étais très très content qu'il soit en sécurité. Je m'inquiétais tout le temps pour lui. Et puis, d'un coup, il nous dit qu'il essaye d'aller en France et que ça a l'air de marcher. Il va en France, j'étais très très content. Et la France était l'un des pays que je voulais vraiment visiter. Et d'ailleurs, la Tour Eiffel était... le fond d'écran de mon ordinateur portable.
Pour suivre et pour avancer avec le récit de votre bande dessinée, donc c'est la fuite pour finir de toute la famille qui passe par la Jordanie avant de rejoindre la France. Et vous dites dans cette bande dessinée, pas de discrimination ou très peu de remarques vexantes. Donc vous voulez dire que la France reste bien une terre d'accueil pour les réfugiés, Hessam ?
Oui, tout à fait. Même si on entend toujours parler de qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les migrants sont les méchants, etc. En tout cas, dans mon entourage, dans tout ce que j'ai vécu en France, la très 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 grande majorité était très accueillant pour moi, très souriant tout le temps, ils m'ont toujours aidé, mes amis qui me corrigeaient les fautes de français, la famille française qui m'a accueilli à Nantes. J'adore les gens que j'ai connus, j'adore.
Mais bon, on voit quand même ce qu'il y a de positif dans cette histoire d'Hessam. Il a fait beaucoup d'efforts, bien sûr, pour s'intégrer, mais il a aussi recueilli de la part de la quasi-totalité des Français qu'il a rencontrés à son arrivée une bienveillance très largement. C'est ce qui rend son histoire positive et ce qui donne de l'espoir un peu à tout le monde.
Vous qui avez connu la captivité, vous qui avez très bien connu la région, pourquoi continuer de raconter ces histoires et en quoi c'est nécessaire de continuer à porter justement ce genre de témoignage, Nicolas Hénin ?
Je pense que c'est important parce que on a aussi des discours adverses qui sont pour le coup de la véritable désinformation, qui reviennent régulièrement en remettre une couche, essayer de faire croire aux pauvres petites gens que la révolution syrienne était une manipulation, n'avait rien de spontané, qu'elle était extrémiste et radicale et violente dès l'origine. Et je pense qu'il est important de redonner régulièrement la voix à des acteurs de première main lendemain de ces événements pour lutter contre des tentations de réécrire l'histoire.
Aïssa, Nicolas, merci à tous les deux.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et je rappelle aux auditeurs que la bande dessinée Aïssa, une jeunesse syrienne, est publiée aux éditions d'Argo. Prochaine étape dans l'atelier des médias, le mojo. Oui, avez-vous déjà entendu parler de la figure du mojo ? Le mojo, c'est tout simplement la contraction de mobile journalist, ou pour le dire autrement, c'est le journaliste 100% compatible avec le mobile. On se retrouve après le flash pour parler de live, de l'instant détox de France Info et d'un podcast francophone sur le mojo. A tout de suite.
Dimanche, atelier des médias, deuxième partie. Le mobile, c'est un peu comme l'internet ou les réseaux sociaux. Cet objet que l'on glisse dans sa poche s'est imposé comme une évidence dans nos existences. À telle enseigne qu'aujourd'hui, on le voit comme le prolongement naturel de la main. Le mobile est devenu cet indispensable compagnon du quotidien qui, à sa manière, sait nous dépanner quand on en ressent le besoin. Vous vous êtes perdu en cours de route, hop, un coup de carteau et un itinéraire. Vous êtes coincé dans une salle d'attente, un moment de solitude insoutenable, il y a toujours du monde sur les réseaux sociaux. Un instant de grâce ou une injustice caractérisée là sous vos yeux, photos, vidéos, périscopes, tweets ou snap à gogo, vous avez de quoi documenter, réagir ou partager. Le mobile, c'est aussi ce condensé de technologies qui nous enjoint de répondre quand tout en nous aurait envie de s'abandonner au songe ou à la rêverie. Mais que voulez-vous ? Il faut bien qu'on apprenne à composer avec cette valse perpétuelle des mails, ce zonzon des notifications, mais aussi parce qu'elle existe avec cette surveillance en loose-dé qui s'installe au gré de nos usages et qui nous rapproche un peu plus chaque jour des sociétés de contrôle. Mais là, je vous propose de partir d'une toute autre définition. Le mobile, c'est cet outil de 12 cm sur 5 qui change radicalement la façon dont on s'informe, radicalement la façon dont on produit l'information, mais aussi la façon dont l'information nous retrouve, nous assaille ou nous environne.
L'atelier des médias, à l'écoute de la société numérique et de l'innovation.
Et pour parler du mobile et de l'information, je vous propose de converser avec l'un de ceux qui très tôt s'est intéressé à la figure du mojo, pour ne pas dire mobile journaliste, je veux parler de Nicolas Becquet. Bonjour Nicolas Becquet.
Bonjour.
Alors, on ne vous présente plus ici, vous êtes quasiment un habitué. C'était quand d'ailleurs votre dernier passage à l'atelier des médias ?
C'était un passage, je pense, avec Cédric Mott, où on avait partagé nos différents outils et cette collaboration qu'il y a dans cette fameuse communauté.
Alors, pour le plaisir, je déroule trois faits quand même vous concernant. Vous êtes journaliste, vous êtes responsable des supports numériques de l'Écho en Belgique, et vous bloguez sur mediatype.be. Ça va, pas d'erreur factuelle ?
Très bien.
Alors, première question, pourquoi vous êtes-vous intéressé aussitôt au mobile et quelle a été, en un certain sens, l'expérience fondatrice ?
L'expérience fondatrice, c'est en 2010, j'ai acheté un iPad, pour pas le nommer. Et là, d'un seul coup, des dimensions se sont ouvertes à moi, qui était plutôt une personne de radio avec un micro. D'un seul coup, j'étais en capacité de produire de la vidéo, de faire du montage, de prendre des photos, de les partager facilement. Et donc, j'ai eu accès à ce que j'appellerais le reportage augmenté. Souvent, dans les rédactions, il y a des collègues qui reviennent de reportage et me disent « Oh, j'ai vu ci, j'ai vu ça, c'est génial !» et tout ça. Mais au final, dans le produit qui arrive à l'antenne ou sur le papier, eh bien, on ne retrouve pas cet enthousiasme et tous ces petits éléments qui sont très importants pour comprendre une situation. Eh bien là, je me suis dit, avec la tablette, je vais pouvoir le raconter sur le côté, via les réseaux sociaux, grâce à cet outil formidable.
Et en même temps, vous avez une approche très très vigilante, très pragmatique. Je me souviens de vous avoir vu aux Assises du journalisme de Metz, c'était en 2014. C'était déjà clair pour vous, il fallait explorer de ce côté-là, mais vous essayez de trouver une forme de grammaire.
Oui, effectivement, puisque si on estime que c'est un nouvel outil, une nouvelle façon de consommer, eh bien, c'est une nouvelle façon de produire de l'information. Et c'est ça qui est, je pense, fondamental, c'est que avec un téléphone en main ou une tablette en main, on ne fait pas le même métier. Ou en tout cas, on ne le fait pas de la même manière pour la même audience ou pour les mêmes supports. Et donc, le plus gros potentiel, c'est pas un potentiel technique, c'est un potentiel de raconter l'information autrement. De trouver des voies un peu détournées, de peut-être d'éclairer un aspect ou un autre. Et c'est ça qui me semble très important. Et aujourd'hui, on est face à cette question de dire, ok, il y a des vieux médias, ok, il y a des nouveaux médias, Qu'est-ce qu'on fait entre les deux? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de raconter différemment l'information?
Et vous, à l'écho, j'ai l'impression que vous avez la possibilité de tester pas mal de choses. Il suffit de taper sur votre navigateur multimedia.l'écho.be/portfolio. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? De la vidéo à 360, de la réalité virtuelle. Est-ce que ça veut dire que pour vous, le plus petit dénominateur commun de toutes ces innovations, que ce soit sur le fond ou sur la forme, c'est le mobile, Nicolas Becquet?
C'est le mobile dans le sens où quand une information est consultée massivement via ce canal, donc un smartphone ou une tablette, il n'est pas illogique de se dire qu'on peut produire cette même information avec du mobile sur des plateformes mobiles. Je me suis dit, si on arrive à mettre le web, les réseaux sociaux au service du terrain, eh bien on pourra raconter le terrain et nos reportages dans une réalité beaucoup plus riche.
Si on prend un peu de recul, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie ou au Proche-Orient, on a presque l'impression que ce sont les utilisateurs qui ont montré la voie aux journalistes. Par exemple, en filmant eux-mêmes les situations qui leur semblaient importantes. Est-ce que ça veut dire que c'est le public qui a contraint les journalistes vraiment à réinventer et à repenser l'utilisation de leurs outils au service de leur travail et de leur métier, Nicolas Becquet?
Il l'a contraint, oui, mais sur plusieurs aspects. D'une part, par sa consommation massive d'informations via les canaux mobiles, mais aussi en prenant cet objet, ce smartphone, et en filmant, sans se poser trop de questions, en vertical, à l'horizontale, assis, debout, couché. Et finalement, toutes ces vidéos-là ont été très vues. Pourquoi ? Parce que elles racontaient des morceaux d'existence, des morceaux de réalité qui intéressaient d'autres citoyens, d'autres internautes. Et je pense que, peu importe la technique, la qualité du contenu, en tout cas au départ, il y a 2-3 ans, eh bien c'était l'intérêt d'avoir une vidéo et de voir quelque chose qu'on ne voyait pas dans les médias traditionnels.
Et aujourd'hui, vous êtes à la fois responsable donc dans un média et vous êtes formateur en matière de Mojo, de mobile journalist. Est-ce que ça veut dire qu'à l'écho, tout le monde, tous les journalistes sont équipés d'un mobile et font du Mojo?
J'aimerais bien répondre que oui, ça me ferait un grand plaisir. Mais dans la réalité des faits, non. Est-ce que c'est souhaitable? Moi, je me pose la question, puisqu'on a toujours eu dans des rédactions des journalistes qui sont plus agiles que d'autres, certains qui trouvent que ça pourrait apporter une plus-value. Pour certains sujets, ça n'apporte pas de plus-value. Voilà, il y a une forme de flexibilité et puis de pragmatisme. Après, c'est sûr que quand un journaliste va à l'étranger ou fait un reportage, j'essaye quand même de le convaincre de nous ramener quelques images, puisque par définition, il va aller dans des endroits où l'internaute ou le citoyen lambda ne pourra pas aller. Et c'est ça que j'ai envie qu'il me raconte. Et qu'il revienne au bout de 2 semaines de reportage et qu'il publie un article sur 2 pages avec 3 photos... Personnellement, je trouve ça frustrant parce que je suis sûr qu'il a vu une montagne de choses, une richesse de cette réalité qui mérite d'être partagée.
Alors là, vous allez un peu vite en besogne parce qu'il faut qu'on revienne sur l'expression mojo. On peut peut-être même faire une sorte de généalogie. Si on prend un peu de recul, on a l'impression qu'il y a presque 2 écoles du mojo. Donc, je rappelle, hein, mobile journaliste. Soit on fait de la vidéo à l'ancienne avec du mobile, soit vraiment, comme vous le disiez, on écrit et on produit des formats qui sont 100% pensés pour le mobile. Aujourd'hui, quelle est la tendance finalement la plus présente autour de nous, Nicolas Becquet?
La tendance la plus prégnante, c'est de reproduire avec un téléphone ce qu'on fait avec une caméra. On n'y arrivera jamais, en tout cas pas avec la même perfection. Et puis tenir une caméra, être JRI, journaliste reporter d'image, c'est un métier. Mais il y a quand même cette tendance de dire, avec mon téléphone, je peux refaire un sujet d'une minute trente, propre, léché, avec un très bon son et qui serait diffusable sur une antenne d'une grande chaîne nationale. Ça, c'est la première école et elle est largement majoritaire.
Tout le monde avait parlé de l'aimant bleu, par exemple, en Suisse, c'est le cas. C'est-à-dire qu'ils font de la télé classique, mais avec un outillage qui est mobile.
Voilà, mais ils ne font pas du journalisme mobile, à mon sens, dans la définition que je pourrais tenter de lui donner, c'est-à-dire d'avoir une palette d'outils et de formats qu'on peut utiliser avec son smartphone. C'est-à-dire d'être capable de produire de la photo, un petit diaporama, pourquoi pas de la vidéo, un live. Mais c'est vraiment une boîte à outils dans laquelle on va venir chercher, on va venir puiser parce qu'il y a des situations qui vont l'exiger. Et c'est pour ça que c'est très important pour moi, c'est de parler en termes de format. Et je pense que le mojo, l'avenir du mojo, c'est de réapprendre à raconter le réel. Alors, ce sont des grands mots, mais ça peut être très simple. C'est-à-dire de prendre quelques secondes d'une scène en vidéo qui n'aurait pas eu sa place dans le grand reportage. Ça peut être de prendre quelques photos qui donnent une idée de l'ampleur de la manif et de la partager directement sur les réseaux sociaux. Parce que c'est ça qui est intéressant. C'est pas qu'une question technique ou un challenge journalistique. C'est aussi d'être avoir une nouvelle proximité avec l'audience. Étant donné que l'audience utilise ces outils-là, eh bien, on est plus proche et on a un contact direct. J'irais presque à dire, on peut devenir son propre média. Et par rapport à l'Afrique, c'est très intéressant aussi, puisque l'Afrique, le continent africain, même si c'est toujours difficile de faire des généralités sur le continent africain, est passé finalement au-delà de l'étape du PC et arrivé tout de suite avec le mobile, avec un boom énorme. Et donc aujourd'hui, il y a des rédactions mobiles qui sont en train de se monter, basées sur les smartphones. Et ça, je trouve ça intéressant.
Alors justement, ça pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions d'organisation. Le Mojo, par exemple, on le voit à France Info, la nouvelle chaîne en continu en France, il y a beaucoup, beaucoup de crispations autour de ce que peut et doit faire un journaliste. Comment vous faites, vous, Nicolas Becquet, et comment vous voyez ce genre de questions? Est-ce que le journaliste avec son mobile, aujourd'hui, il est censé, il est capable de tout faire?
Je pense pas que ce soit souhaitable, mais là, on dépasse la question du journalisme mobile. C'est comme dans une rédaction. J'ai fait partie de cette génération, on parlait de Cédric Mott aussi, des bidouilleurs, des gens qui voulaient apprendre à faire une carte, un peu de data, un peu de vidéo, un peu de son. C'était très bien parce qu'on a défriché. Maintenant, les écoles de journalistes apprennent à faire ça. Donc ça, c'est une étape qui est passée. Je pense que pour l'avenir des médias, on va revenir à une forme de spécialisation. Le ticket d'entrée, comme on dit, pour faire de la vidéo, du live ou quoi que ce soit, est vraiment élevé aujourd'hui. Et on revient à l'idée qu'il faut avoir des contenus qui sont faits par des spécialistes. Et moi, dans ma rédaction, la manière dont pour l'instant on s'organise, c'est qu'il y a un pôle multimédia de spécialistes, entre guillemets, en vidéo, en data, en développement, qui vont accompagner les journalistes. Et le journaliste, faut qu'il continue à pouvoir faire son travail, déjà, qu'il a beaucoup de pression, de recouper ses sources, de travailler, quoi, de faire son travail journalistique de base. Après, il y aura toujours des journalistes qui seront plus agiles que d'autres et qui auront envie de tester, etc. Alors ceux-là, je les accueille à bras dans ouverts, il n'y a pas de problème. Mais je ne pense pas que tout le monde doit savoir tout faire parce qu'on va finalement, sinon, diluer les spécificités et les identités éditoriales.
Je vous rappelle que nous sommes avec Nicolas Becquet en studio pour parler du Mojo, du Mobile Journalist. Et à l'atelier, on a eu envie d'aller voir un peu plus près la façon dont on utilise Facebook Live. Et notre reporter Manon Mella est allé voir Julien Pain, que les auditeurs connaissent puisqu'il avait monté les Observateurs de France 24 et qui désormais pilote l'Instant Détox de France Info sur la nouvelle chaîne. Je vous propose d'écouter l'Instant Détox. Qu'est-ce que c'est avec Julien Pain?
C'est vraiment une émission qui naît sur les réseaux sociaux et qui finit à la télé. Donc en gros, c'est comment ça se passe, c'est que le tournage est fait en direct sur Facebook Live. Donc pendant trois quarts d'heure, je suis en direct sur Facebook, je teste mes intox dans la rue et je réponds aux questions des internautes. Donc si par exemple je montre une fausse photo comme ce matin où il y a un tweet d'Obama qui est un faux tweet d'Obama, je vais faire réagir les gens sur ce tweet.
C'est un fake.
Bravo. Comment vous avez su que c'était un fake?
Pas qu'il est pas aussi direct, même si c'est un tweet.
Il dirait pas quelque chose comme ça?
Non.
Et après, les gens me voient en Facebook Live et vont m'envoyer des questions, vont des fois me challenger, me dire « Mais moi, je suis pas d'accord avec toi, c'est vous les journalistes qui êtes les désinformateurs. » Donc tout commence dans un Facebook Live et ensuite, je tourne avec deux caméras, donc une qui me tourne sur Facebook, une qui est une caméra plus professionnelle qui fait des plans larges, etc. Avec lequel ensuite, je vais jouer pour produire une émission de 3 minutes qui, là, va sur le broadcast, qui va à l'antenne. Là où la boucle est vraiment bouclée, c'est qu'au final, cette émission de 3 minutes, on la reposte sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et là, on recueille de nouveau les commentaires des gens sur le produit final. Donc, ça démarre en Facebook Live et ça finit sur Facebook.
Alors là, Nicolas Becquet, c'est clairement le web qui l'emporte sur le broadcast. On a une sorte de boucle bouclée, Facebook Live, la télévision, et on retourne sur les réseaux sociaux.
Oui, il faut pas opposer les différents formats, justement, ils sont complémentaires, et c'est ça que j'apprécie beaucoup dans la démarche de Julien Pain et de cette séquence, c'est que il s'adresse à des jeunes, puisque on parle des manipulations d'informations, et on sait que les jeunes, on en a parlé beaucoup dans cette émission, sur les théories du complot, sur la manipulation. Et donc, il va à la rencontre des quidam, là, pour faire son micro-trottoir, mais il y va de manière professionnelle, mais aussi de manière décontractée. Et ce qui me plaît, c'est son format. C'est-à-dire qu'il n'a pas un costume trois pièces avec un micro, avec un plan fixe, c'est qu'il y va, et dans sa séquence, on voit les gens qui refusent de lui parler. On voit les coulisses de l'information. Et c'est quelque chose de plus léger, et donc il utilise ce live Facebook pour qu'elle faire finalement un contenu qui va être regardé et moins corseté, moins pris dans ce qu'on a l'habitude de voir dans les grands médias.
Et ça change la façon de travailler, on se pose généralement beaucoup de questions. La vidéo doit-elle être verticale? Est-ce qu'elle doit être carrée? Et même, question toute simple, quelle caméra regarder?
Quand j'ai commencé cette émission, moi j'ai fait beaucoup de journalisme télé plus classique, donc j'ai fait beaucoup de plateaux face caméra. Donc premier réflexe quand on a fait le premier Facebook Live, c'est que moi je m'adressais à la caméra pro, la grosse caméra. Et le Facebook Live était un peu autour de moi, et il se baladait autour de moi. Puis en fait, quand j'ai regardé mes rushs, je me suis dit, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut parler aux internautes directement, et l'autre caméra, la caméra pro, elle va faire les plans de réaction des gens, elle va faire les plans larges, elle va être la caméra d'appoint. C'était pas une logique pour un journaliste télé à la base de faire ça. Donc là, le deuxième numéro, j'ai fait ça, j'ai parlé aux internautes directement. Déjà, ça m'a changé ma façon d'être à la caméra. C'est-à-dire que dès qu'on se met face à une caméra pro, on prend une attitude de journaliste pro, c'est-à-dire au sens où on est un peu figé, un peu guindé, on a cette espèce d'expression à laquelle on est habitué des journalistes. Dès qu'on parle à Facebook, donc sur un Facebook Live, le ton change complètement et on retrouve un naturel très facilement. Et ça, c'est vraiment un exercice que j'ai beaucoup apprécié, c'est que comme en plus on a les réactions des gens qui nous, voilà, qui nous posent des questions assez simples, simplement, et qu'on a une interaction directe avec eux, on retrouve un naturel, un parler vrai, qu'on perd dès qu'on se retrouve seul face à une caméra. Donc moi, j'adore cet exercice maintenant, me retrouver sur Facebook, à parler avec des internautes, à échanger en direct. Pour un journaliste, c'est... Franchement, c'est un bonheur.
Donc c'est ça le mojo, en un certain sens. C'est le fait d'être sorti de la stature habituelle, de l'aplomb, et on est vraiment avec les internautes.
C'est Nicolas un très Becquet. Bon résumé de Julien Pain, parce que c'est lui le journaliste. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est présent à l'image, mais il ne se surimpose pas, il écrase pas l'image par sa présence, statutaire, de journaliste qui a la bonne parole. Et justement, il challenge les gens qu'il a. Ah, tiens, cette photo, est-ce que vous pensez que c'est vrai, pas vrai, etc. Il laisse justement le temps un peu filer, et donc quelque chose de beaucoup plus naturel. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que en adoptant pas une position docte, quelque chose vraiment de professoral, eh bien, il donne des petits conseils aux jeunes en disant, bah, vous voyez, ça c'est facile de truquer un tweet d'Obama. Bah, voyez, si vous faites un petit clic droit sur une image, bah, vous verrez qu'en fait, elle existe déjà et qu'elle n'est pas du tout dans son contexte. Voilà. Donc, il y a aussi de l'éducation aux médias.
Alors là, on a la bouche en cœur, on dit que c'est formidable, mais c'est quand même un exercice d'équilibriste d'être en direct. C'est un changement même assez radical. Et il y a même une question importante, Antoine Lefond. Est-ce que les médias doivent vraiment s'adapter, et surtout jusqu'à quel point, Nicolas Becquet ?
Ça, c'est une grande question. Il faut mieux pas me lancer sur cette question. Oui, les médias doivent s'adapter. Ils doivent tester des nouvelles formes. Aujourd'hui, la plupart des médias, ce qu'ils font, c'est ils font le grand écart. Ils veulent aller cibler les plus jeunes parce que c'est un enjeu de renouvellement de leur audience qui est vieillissante. Ils veulent pas déplaire à leur audience vieillissante. Et puis, au début, au milieu, il y a un magma qui fait beaucoup de clics et qui est très important. Du coup, il y a une dilution souvent de l'identité éditoriale, et c'est ça qui est compliqué à gérer.
Mais l'enjeu, c'est de se rapprocher de ce public qui a peut-être, et même d'ailleurs nécessairement, décroché d'une partie des médias traditionnels. Je vous propose tout simplement d'écouter le point de vue de Julien Pain. Pourquoi se lancer dans cet instant détox ? On écoute.
C'est très difficile pour moi de dire quel public on a sur chaque plateforme. Franchement, on n'a pas d'études qui le montrent. Moi, j'ai quand même le sentiment, mais c'est un sentiment par l'interaction avec les gens, que c'est deux publics très différents. C'est-à-dire que sur Internet, on se crée une communauté de gens un peu addicts, qui commencent à nous suivre régulièrement, revenir sur chaque direct qu'on est en train de faire, et qui sont pas des gens qui forcément regardent la télé. Et sur la télé, on touche d'autres personnes. Et moi, je trouve que c'est hyper intéressant, parce que tout le travail qu'on fait sur le digital, c'est justement pour aller reconquérir des publics qu'on n'a plus, c'est-à-dire des publics plus jeunes et qui se désintéressent de la télé. Donc ce public de Facebook, il m'intéresse particulièrement parce que c'est des gens qui interagissent plus avec nous, qui sont presque des fois sortis de l'univers médiatique traditionnel.
Et qu'est-ce qu'ils en pensent alors, les internautes, du fait qu'il y ait une émission télé qui soit diffusée en live sur Facebook ? C'est quoi les retours que tu as eus ?
Les retours sur Internet, c'est toujours très clivant. Donc on a honnêtement une grande majorité des gens qui apprécient ce contact direct avec les journalistes. Donc moi, c'est quelque chose que je ressens, parce qu'il y a beaucoup d'encouragement. Allez-y, ça fait vrai, vous nous parlez vrai, vous n'êtes pas en train de nous... Voilà, on sent que vous êtes impliqué dans votre sujet et que vous nous écoutez, vous répondez à nos questions, et ça, je pense que c'est quelque chose qui plaît. Et évidemment, il y a une portion des gens qui vont continuer à dire que les journalistes, on est là pour les désinformer, pour les manipuler. Soit ces gens qui croient plus dans les médias, soit on les ignore, c'est ce qu'on a fait pendant des dizaines d'années, on se dit ils sont pas importants, ils sont pas intelligents, on s'en fiche. Soit on s'y confronte, et donc on essaie de leur montrer sur leurs outils, sur leurs plateformes, c'est-à-dire sur Facebook Live, que ben si, journalistes, on essaie de faire notre métier correctement, qu'on se confronte à leurs avis, même quand on n'est pas d'accord avec eux, et on essaie d'expliquer de façon pédagogique, voilà, ce que c'est que le travail du journaliste.
C'était Julien Pain au micro de Manon Mella. Nicolas Becquet, vous me disiez hors antenne, en écoutant Julien, qu'il y avait des bassins d'audience.
Oui, il n'y a plus une audience, et c'est ça qui perturbe beaucoup tous les médias. Pour l'écho, c'est la même chose. Avant, on avait une audience papier, bien déterminée, on faisait une étude chaque année pour savoir qui composait cette audience. Aujourd'hui, entre une personne qui paye son abonnement à l'année papier et numérique, puisque maintenant c'est combiné quand même, celui qui se connecte via nos posts Facebook, ceux qui sont sur Twitter, ceux qui arrivent sur notre appli mobile, ceux qui arrivent sur le site, ceux qui veulent avoir une information boursière, ceux qui veulent avoir une information plus généraliste, on a tellement de bassins d'audience que c'est compliqué à gérer. Mais ce que je trouve intéressant dans le cas de Julien Pain, c'est qu'il dit, voilà, nous on cible les jeunes, on va aller sur leur terrain, et on va aller les titiller justement sur qui enfume qui, qui, est-ce que ce sont les médias, ou est-ce que le média, on a toujours un rôle journalistique de dire, ça c'est vrai, ça c'est faux. Voilà, nous on a un peu plus de temps et de moyens que vous pour vérifier, mais on vient vous l'apporter, et peut-être que vous allez être surpris de la réponse.
Alors Nicolas Becquet, si on continue à balayer les questions, associant à la notion de journalisme celle de mobile, on a une question qui est liée à celle de la démultiplication des canaux. On peut avoir beaucoup, beaucoup de problèmes parfois à gérer ces questions-là quand on est une rédaction. Par exemple, si on veut informer via les messageries instantanées, quel sacerdoce ?
Moi, j'ai même pas encore commencé à y réfléchir, tellement ça me paraît spécifique. Et là, on peut plus dire, on prend une information, on la plie d'un côté, on la plie de l'autre, et puis on la met dans la messagerie, parce que ça ne fonctionne pas. Et si on veut bien le faire, eh bien, il faut faire du montage vidéo, à la verticale, coloré, dynamique. Et donc ça demande un designer, ça demande un bon monteur, ça demande un journaliste. Et donc, c'est tout de suite une équipe. Et de plus en plus, en fait, les plateformes imposent leur propre format. Et donc, demande aux médias de finalement, je sais pas, de se démultiplier. Sauf que c'est pas possible. Les médias aujourd'hui n'ont pas les moyens de le faire. Donc il faut faire des paris.
En tout cas, les formations à la vidéo pour mobile explosent. Est-ce que ça veut dire qu'on a, ça y est, on sait ce que c'est qu'un Mojo et on y est, les rédactions ont créé des postes, il y a des fiches de postes de Mojo, Nicolas Becquet?
Non, je pense pas qu'il y ait encore des fiches de postes Mojo, mais je pense que un travail comme celui de Julien Pain va ouvrir des voies. Et comme on disait, le live, on sait qu'il faut y aller, donc ça ouvre aussi les esprits, ça ouvre les chakras. Ce qu'on peut dire, c'est que depuis un an, on a toutes les planètes qui sont alignées. C'est-à-dire que les usages sont là, utilisation massive des réseaux sociaux, les smartphones sont de très bonne qualité, on a une culture du partage de la photo, de la vidéo, les selfies, etc. Donc, ce sont des contenus qui circulent, on n'est plus à publier deux médias par jour en se disant, voilà, ce sont les deux médias. On peut en publier plusieurs, on peut faire des tests. Côté technique, bien sûr, les réseaux 3G, 4G, le Wi-Fi partout. Et puis, voilà, je pense qu'on y est. Et par contre, moi, je vois un gros risque et je vois dans les demandes de formation, notamment dans la PQR, la presse quotidienne régionale, de vouloir former des journalistes à faire du montage et de la vidéo pro, la première école. C'est très bien pour certains parce que certains vont reprendre ces outils, ils vont très bien le faire, mais je pense pas qu'il faille le généraliser. Je pense qu'il faut plutôt avoir une approche pragmatique de dire, ok, on a trois situations, on a trois applications. La première, vous arrivez, il y a une inondation, vous prenez 5 photos, vous en faites un diaporama, on l'exporte en vidéo sur Twitter, sur Facebook, ça prend 2 minutes, je peux faire les tests quand vous voulez. Une autre application, on prend une photo et on met une citation, donc du texte sur une photo, ce qui va accrocher l'œil en attendant l'émission, en attendant peut-être le papier ou le reportage complet. Et puis pour ceux qui veulent, ils peuvent aller vers la vidéo, des petits extraits de 20 secondes, de 30 secondes, et puis un bout à bout, et puis on avance comme ça, mais faut pas aller trop vite. Je pense pas qu'il faille aller trop vite. Le journaliste a besoin d'avoir des petits outils faciles.
Alors, dernier retour d'expérience, j'ai contacté Guillaume Custer, qui est ancien journaliste à France 3 et qui a vu le mobile débarquer dans sa locale en 2014 et qui, depuis, a monté le premier podcast francophone consacré à la vidéo mobile. On écoute.
Le podcast se trouve sur iTunes, si on a envie. Il suffit de chercher Vidéo Mobile, le podcast, dans Google, et puis on va tomber dessus. Normalement, ça devrait bien fonctionner, ou sinon dans le répertoire de podcast d'iTunes, dans votre téléphone, ou même sur votre ordinateur.
Bonjour, bienvenue. Vous écoutez Vidéo Mobile, le podcast. Un nouveau podcast dans lequel on se parlera de production de vidéos pro avec des smartphones, mais pas que.
Et ce podcast fait avec Philippe Couve et Laurent Claus, qui sont deux experts, deux formateurs aussi en Mojo, formateurs tout court, de longue date déjà, très implémentés dans le web en ce qui concerne Philippe Couve, d'ailleurs aussi à RFI en son temps, puisque l'atelier des médias, je crois que vous connaissez bien Philippe dans cette émission-là. Et Laurent Claus, qui est journaliste aussi, qui a été rédacteur en chef de SVM Mac notamment, donc dans la presse tech, qui aujourd'hui est producteur vidéo, qui travaille également pour une agence de presse et qui fait aussi de la formation. Et puis on s'est rencontrés assez paradoxalement tous ensemble à Dublin lors d'une conférence sur le Mojo qui est organisée par un ami et quelqu'un avec qui j'ai formé pour la CIRCOM qui s'appelle Glenn Mulcahy, qui a organisé la plus grande conférence Mojo mondiale, MojoCon, dont la deuxième édition a eu lieu en avril dernier. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est retrouvés, même si on se connaissait au travers des réseaux sociaux avec Philippe et Laurent, on s'est retrouvés physiquement tous les trois au même endroit, et de fil en aiguille on s'est dit ce serait peut-être pas mal d'avoir une ressource francophone sur la vidéo mobile, sur le Mojo, ses applications aussi, sur les évolutions du métier. Là il y a quelques jours, on vient de publier notre deuxième épisode sur l'immanquable sortie des iPhone 7 et de ce que ça change, puisque ça fâche pas mal de monde aussi, la suppression de ce fameux port mini jack sur ce téléphone-là. Donc on vous dit tout dans le podcast sur comment faire pour éviter que ce soit un problème et pour faire en sorte que la vie continue.
Alors Nicolas Becquet, vous qui êtes l'auteur d'un très bon kit du e-reporter, dites-nous toute la vérité, rien que la vérité. Est-ce qu'on est condamné à devoir travailler sur iPhone pour faire du bon boulot quand on a envie d'être Mojo ?
Aujourd'hui, je dirais que Android rattrape un peu son retard, mais qu'on reste largement devant en termes d'expérience utilisateur, c'est-à-dire cette possibilité de monter facilement, cette stabilité. Et puis, au niveau créatif, les applications dans l'univers iOS, c'est-à-dire Apple, sont encore largement devant.
Nicolas Becquet, je vous remercie de votre visite. Je rappelle que vous travaillez pour l'écho.be et que votre excellent blog se retrouve à l'adresse mediatype.be. Merci.
Merci beaucoup.
J'en profite pour remercier Julien Pin, que l'on a suivi sur le tournage de l'un de ses instants détox, ainsi que Guillaume Custer, qui a pris le temps de nous parler de son podcast sur le Mojo. Toutes les références, tous les liens utiles sont à retrouver sur atelier.rfi.fr. D'ici là, n'hésitez pas à interagir avec nous sur les réseaux sociaux, à nous faire part de vos innovations, voire de vos projets Mojo. L'Atelier des médias, une émission préparée par Manon Mella, Mathias Virili, Marie-Stéphanie Servos et Camille Deloche. À la réalisation cette semaine, Pierre Chaffanjon, au micro Julien Lebotte. L'Atelier des médias vous salue bien, on vous dit à la semaine prochaine, vous êtes sur RFI. Merci d'être à notre écoute.
Géopolitique.